Voici donc mon exposé du mois de septembre qui s'intéressera surtout à Saint François de Sales et à l'introduction à la vie dévote. Saint François de Sales était un directeur que certains jugeaient facile, mais qui dans le fond était assez exigeant. Il n'était pas, comme l'a dit la Bruyère, un néant verbeux, car il demandait des actes. Ce qu'il appelait des chaussettes était parfois difficile. On peut faire héroïquement de petites actions. Les principaux caractères de la direction de François de Sales sont la douceur et l'humilité. On peut prendre comme exemple ceux qui s'occupent de personnes handicapées et tentent amoureusement de satisfaire ceux qui semblent parfois des caprices d'enfants. Ne ment pas surtout en parole, mais en acte, sans être présomptueux. Le soir de la Passion, Saint-Pierre se voyait décidé à l'héroïsme, ce qui lui valut de renier son sauveur quelques heures plus tard. Mais quelques jours après, il fut nommé chef de l'Église en toute humilité. C'est dans l'humilité et la confiance que nous progressons. Il faut haïr ses défauts d'une haine tranquille. Nous voilà à l'opposé de Port-Royal. Ne pas craindre de se rapprocher de notre Seigneur malgré la petitesse de notre âme et ne pas imiter le lion s'irritant contre le moucheron. En ce qui concerne la communion, Saint François disait « Encore que je me sens misérable, je ne m'en trouble pas et parfois je suis joyeux, sentant que je suis une vraie besogne pour la miséricorde de Dieu. » À l'austérité intérieure, il faut joindre l'aménité extérieure. Comme tous les grands mystiques, Saint François connut de dures épreuves, se sentant parfois abandonné de Dieu et Mère Teresa, pendant plusieurs années, se sentait abandonnée de Dieu. Il demandait la grâce de ne pas tomber dans le péché mortel, de résister à toute tentation de cet ordre. Tout par la grâce, rien par la nature. Il avait une grande dévotion envers la Sainte Vierge, récitant souvent le « Souvenez-vous ». Il a écrit l'introduction à la vie dévote à la demande d'Henri IV, qui désirait vivement la conversion des personnes de la cour. Le roi précisait « Si vous faisiez un livre, le roi lui demandait, si vous faisiez un livre qui nous montre Dieu présent dans les choses humaines, un livre qui montre la piété accessible à tous et conciliable avec les devoirs ordinaires. Écrivez-nous, lui demandait le roi, un livre qui montre Dieu mêlé à notre vie et à la vie commune, conciliable avec la vie de l'autre. » Le roi Henri IV, cité par l'abbé Villain, est assez différent de celui des livres d'histoire. C'était un roi essentiellement bon. Nous sommes à l'opposé du rigorisme calviniste. Dans son introduction, saint François parle beaucoup des divertissements, anodins mais inutiles, qui peuvent même devenir dangereux, parmi lesquels les jeux d'argent, qui peuvent aller jusqu'à vous conduire à la cupidité et à la tricherie. Mais il disait que ces jeux, qu'il fallait s'en méfier. Que dirait-il aujourd'hui des jeux électroniques et des réseaux sociaux? Que dirait-il d'heures passées devant un écran de télévision à regarder des spectacles trop souvent imbéciles? Il prêche de se diriger vers Dieu, non par contrainte, mais par amour. Il ne faut pas que la crainte étouffe l'amour. Les jansénistes se font un oratoire retiré au bout d'une galerie où l'on voit de temps en temps une galerie tendue de noir où tout porte à la crainte et à la pénitence. Du coup, les mondains se séparent de Dieu. Saint François met la dévotion dans sa chambre. Le Christ se mêlera à toute la vie, soutiendra tous les devoirs, annulera toutes les actions. Il cherche aussi la tranquillité de l'âme. On l'a accusé de rendre la dévotion facile et trop aisée. En réalité, Saint François demande d'abandonner sa volonté à Dieu, de se reposer dans l'obéissance, comme l'enfant qui donne la main à son père. C'est la tendresse des âmes pures. Tendresse et pureté. La pureté conserve la tendresse et la tendresse se renouvelle dans la pureté. À côté de saint François, on cite souvent sainte Jeanne de Chantal. Née à Dijon, elle était un peu plus âgée que saint François. Elle avait un caractère très différent. C'était une âme rigoureuse, tranchée, exclusive, n'admettant pas les compromis. Saint François s'appliqua à l'adoucir. Elle avait été une épouse affectionnée, une mère attentive, une excellente maîtresse de maison. Saint François saura utiliser cette énergie pour fonder la Visitation, un ordre destiné à l'enseignement et à la dévotion. Les visitandines ne cherchent pas les mortifications importantes. Simplement, elles veulent vivre dans l'humble accomplissement des tâches quotidiennes. Je ne puis que penser à cette phrase de Saint Jean Bertrand, un ou deux siècles plus tard, ne pas chercher à faire des choses extraordinaires, mais faire des choses ordinaires avec un son extraordinaire. On est loin du clinquant politico-médiatique. Cette période se déroule en bonne partie sous le règne de Clément VIII, qui a régné de 1592 à 1605, le pape qui donna l'absolution à Henri IV. Il était bien dans l'esprit de l'époque et employait beaucoup de douceur dans les négociations. Son meilleur ami était Philippe Léry, fondateur de l'Oratoire. Il ressemblait à François de Sales sur bien des points. Il jeûnait tous les samedis, disait la messe tous les jours, ce qui n'était pas le cas général, et se confessait tous les jours. Dans l'entourage de Clément VIII, il y eut d'un certain François Tollet qui fut le père de la théologie scolastique dans la Compagnie de Jésus. Disciple de Saint Bernard, il disait « Dans le cas d'opinions différentes non tranchées par l'Église, il faut préférer la plus douce, la plus humaine. » Il favorisait la bonté et l'indulgence. Le début du XVIIe siècle était marqué par la douceur dans une bonne partie de l'Église. La suite sera quelque peu différente. Avec les jansénistes. Une grande préoccupation de Clément VIII était d'empêcher que soit exalté l'aspect divin de la source du pouvoir des rois. Que le pouvoir donné au roi soit considéré en dehors de sa responsabilité devant Dieu et devant des hommes. Certes, le Christ Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir si tu ne l'avais reçu d'en haut. Clément VIII demandait à garder dans l'esprit des rois le fait que leur pouvoir venait d'en haut. Il obligea à se rétracter un orateur qui aurait dit devant le roi d'Espagne que le souverain a pouvoir absolu sur la personne et le bien de ses sujets. Il lui a rappelé que le souverain se doit de respecter le droit humain et le droit divin. Il ne serait pas inutile de rappeler à nos potentats politico-médiatiques, en leur rappelant que le droit divin n'a rien à voir avec le choix des lecteurs chez lesquels l'ignorance le dispute à l'incompétence. Clément VIII connut d'incessantes complications, car il voulait défendre la justice contre des ordonnances royales abusives. Il eut de nombreuses difficultés avec les rois de Sicile et d'Espagne, sur l'administration des biens du clergé, et aussi sur des points politiques, comme l'expulsion des morts d'Espagne et l'attitude de Louis XIV envers les protestants, ainsi avec la République de Venise, qui interdisait au clergé d'acquérir des biens immobiliers et limitait le droit des évêques à juger certains cas. Son successeur Paul V accusait les Vénitiens de vouloir fixer par décret les heures de l'Angélus. C'était la véritable folie. Venise s'appuyait sur un religieux qui s'insurgeait contre le pouvoir pontifical et disait du Concile de Trente qu'il était catholique en gros et protestant en détail. Toutes ces sympathies allaient aux Gallicans, auxquels, disait-il, nous devons le peu de liberté qui reste en Italie. Il appelait Rome la bête envahissante. Certains le présentaient comme un excellent avocat du diable. Mais tout ça, ce sont des erreurs où vous précipitez l'orgueil. Même dans une douceur relative, les disputes vous manquent. Elles connaîtront sorcièrement dans le secteur. L'introduction à la vie de l'autre remet les choses à la place. Introduisant l'amour du Christ dans le secret des âmes, et dans la moindre des actes, sans se croire obligé de ranger ressensiblement sa haine et sa discipline, comme le dit bien haut, le parti de nos retrouvant tout ce que des âmes et nous rapprochons de plus en plus du Seigneur dans ce monde où la dureté et le mensonge ont un pouvoir extraordinaire. Je vous souhaite une bonne année.